Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex!
Nous revoilà, c'est donc Par Jupiter, saison 5, épisode 58.
Ça va Alex?
Tu l'ignores peut-être, mais oui. Nous t'embarquons maintenant dans un voyage drôlatique au cœur de l'actualité d'un monde intergalactique et foutraque.
Oh, oh, Alex!
Bienvenue
Alex.
À bord de la start-up spatio-temporelle, la machine est prête, le cadran interstellaire nous indique jeudi 22 novembre 2018.
Non mais rien à faire là.
Bonjour à toi l'ami.
Oui, bonjour Alex!
Tu sais quoi,
on a compris que tu voulais rendre hommage à Philippe Collin, notre invité.
Oui. Grand homme de radio, moi je l'écoutais quand j'étais petit.
Ouais, panique au Mange un Palace, Downtown, 5-7 Boulevard, tous les profs de France Inter s'en souviennent.
Ça. Ouais, ouais, moi aussi j'en ai un souvenir très ému, mais bon là il vient nous parler de sa BD.
Donc, on va se marrer avec lui.
Peut-être on va parler foot.
Ouais. C'est le monsieur sport de France Inter.
L'œil du tigre, c'est une émission sur le sport, mais avec esprit.
Voilà. Non, attendez, parce que là c'est pour une BD et elle est émouvante.
On va lui demander que pensez-vous de la vision nietzschéenne du 4-4-2.
Est-ce que vous savez que le premier coup de poing qu'a donné Mohamed Ali, c'était dans un livre de Mark Twain?
Est-ce que vous saviez qu'en 1931, la Belgique a battu la France au foot?
Ça limite.
Non mais arrêtez. C'est intime ce qu'il vient raconter Philippe Collin, il veut transmettre...
Grâce à cette voix, mais cette voix Philippe Collin
Entre fumeur de Havane et commentateur de jeux vidéo,
on va se marrer. Bon allez Charline, de quoi elle parle la BD du poteau filou?
Malgré nous, c'est pendant la Deuxième Guerre, les Alsaciens qui sont enrôlés de force dans les Waffen-SS.
Ah, pardon.
Oui,
d'accord.
Ça va vraiment. Ah, je te jure.
Ouais.
Allez, bonjour la France Inter et bienvenue dans la Tartup. Voici les trois infos qui ne vont pas rentrer dans le moule. L'extrême droite est déjà au-delà de la dédiabolisation. Elle est passée à une sorte de fascisme glam. Selfie, look BCBG branché. En France, certains ont même adopté les codes des bobos pour promouvoir le facho-bobo, le hipster d'extrême droite.
Voilà, je suis en train d'acheter une figurine de Jean-Marie Le Pen. Je suis sur un site de jouets nazis.
La promesse de Macron faite à Ouagadougou est en train de se concrétiser. Pour l'instant, on est encore au stade du rapport qui propose des pistes pour le retour des œuvres spoliées à l'Afrique. La grande exposition de cet hiver au Grand Palais est consacrée à la représentation de Michael Jackson dans l'art contemporain, car son influence sur les artistes fut considérable. Lui, de là où il est, qu'en pense-t-il ? Ah, il est content. Michael Jackson était lui-même une œuvre d'art, donc c'est un point commun avec Alex.
Oui, c'est un ami, je sais très bien qui c'est Michael Jackson, il fait de la musique. Autour de la table, une toute belle équipe dans cette journée compliquée, mais on va s'en sortir avec eux à 17h20. Celle qui, sous ses cheveux frisés, cache des idées tout aussi tordues, c'est Rukyata Ouédraogo, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Eh bien Alex, aujourd'hui c'est un grand jour.
Mais de quoi?
Je voudrais dire merci au monde entier.
Très bien. À 17h30, celui qui essaie de faire réfléchir les Français, autant vous dire qu'il a une grosse prime de pénibilité, c'est Guillaume Meurice.
Je savais pas que ça faisait partie du cahier des charges, pardon.
Si.
Non, moi je vais vous parler de Carlos Ghosn aujourd'hui, je suis allé voir des actionnaires et Carlos Ghosn c'est un homme qui a fauté, ou alors...
Ou alors les Japonais c'est des cons, excusez-moi.
C'est une hypothèse aussi, hein, bien sûr.
Et enfin à 17h40, quand je la vois, je rêve d'être un marque-page. Comme ça, elle m'utiliserait enfin pour pratiquer une activité qui l'excite. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
D'un Alsacien devenu SS malgré lui.
Très bien. Oui. Ah, on l'a entendu ça dans la conf. Il y a peut-être un lien avec.
Avec notre invité. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes.
Eh bien, je suis heureux d'être ici déjà. Et je m'appelle Philippe Collin et je suis un gamin d'Inter.
Voilà. C'est vrai. Ouais.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Philippe Collin.
Merci.
La dernière fois qu'on a fait une émission ensemble, je crois que c'était un match de football.
Non.
Il y a très très longtemps.
Par Jupiter,
il y a
quelques mois, voilà.
Ouais, il me semble.
Les auditeurs ne s'en souviennent pas. En revanche, les auditeurs vous sont fidèles, Philippe Collin. Et vous êtes venu en compagnie de Sébastien Goutals, qui est le dessinateur de cette BD qu'on veut publier chez Futuropolis. C'est une coédition France Inter qui s'intitule Le Voyage de Marcel Grosz. Bienvenue à vous aussi, Sébastien Goutals.
Bonjour à vous.
En plus, avec un nom pareil, vous êtes des origines belges, donc tout va bien. On ne dit pas Goethals, non? C'est Goethe,
non,
comme Goethe.
Ça dépend de du côté de la frontière. Mmh. Du côté de la frontière. Mais en France, on dit Goethals.
Ah, Goethals.
Ouais.
Vous évoquez donc le destin de Marcel Grob, un malgré nous, donc un Alsacien enrôlé de force chez les SS. Philippe Collin, qui était Marcel Grob par rapport à vous? Parce que vous ne le dites pas dans la
Grob. Alors on le dit tout à la fin dans les remerciements, mais c'est très très discret, oui, très discret. Marcel Grob, c'était mon grand-oncle que j'ai très bien connu enfant et adolescent, puisque mon grand-père est mort quand j'avais un an. Donc c'est la personne qui a fait office de grand-père à l'âge de 10, 12, 14 ans. On savait qu'il avait fait la guerre du mauvais côté, du côté allemand, dans la Wehrmacht plutôt, qui est l'armée régulière, on va dire, du Troisième Reich, et non pas dans la Waffen-SS, qui est l'armée nazie du Troisième Reich. Et en 95, j'ai découvert un peu par hasard que c'était plus complexe, puisque Marcel avait appartenu au Waffen-SS. Et du coup, ça m'a beaucoup perturbé, j'étais même choqué. Et vous savez, à 20 ans, on est un peu vindicatif, on aime avoir des réponses claires, noires, blancs, on pose des questions un peu frontalement. Et j'ai essayé d'amener Marcel à une certaine confidence pour essayer de comprendre pourquoi il a vu cette uniforme SS sur les épaules. Et Marcel s'est défaussé, il n'a pas répondu aux questions, il est rentré dans une forme de mutisme. Et moi, j'ai pris ce défaussement pour une sorte d'aveu de culpabilité. Mmh. Et en tout cas, comme quelque chose qui était très louche. Et donc, j'ai rompu en 97. Voilà. Donc, je n'ai plus jamais revu Marcel puisqu'il est mort en 2009. Et je ne suis pas allé aux obsèques en 2009 parce que je ne voulais pas aller aux obsèques d'un SS. Et ni imaginer croiser des camarades de régiment dans l'église, par exemple. Et donc, du coup, par hasard, à nouveau, en 2012, j'ai récupéré son dossier militaire et son Soldbourg. Soldbourg, ça veut dire livre de solde en allemand, qui est donc son passeport, on va dire, Waffen-SS. Oui. Et là, très vite, j'ai compris que j'avais commis une erreur de mes jugements. Je me suis trompé, en fait. Marcel, comme 10 000 autres gamins alsaciens, ont été enrôlés de force, offerts par le préfet nazi, le Gauleiter Wagner, à Himmler en 1944, à la fin de la guerre. Voilà.
Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, il n'a pas du tout répondu à vos questions? Après tout, il aurait pu vous expliquer quand vous aviez 20 ans que c'était pas de sa faute, puisqu'on menaçait sa famille.
Absolument, Clara, c'est une très bonne question parce que je me suis, moi, beaucoup posé la question, mais depuis quelques semaines qu'on tourne, notamment en province, cette histoire revient souvent. Peu ont raconté, très peu ont raconté, sans doute parce qu'il y a un traumatisme, il y a un sentiment sans doute d'incompréhension, peut-être chez les autres. Ils en parlent entre eux. Ils en parlent entre ceux qui ont vécu la même chose. Et c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de descendants qui nous disent « merci parce que, en fait, moi, mon grand-oncle, il a fait pareil, mon grand-père, il a fait pareil, mais il ne m'a pas raconté. » Je pense qu'il y a aussi une grande souffrance chez ces gens qui veulent oublier. Ils ont 92 ans, il reste deux survivants aujourd'hui du village de Kirchberg d'où Marcel est parti, et je n'arrive pas à les rencontrer. Ils ne veulent pas me rencontrer. Ils ne veulent pas parler de ça, en fait, parce qu'ils ne savent pas d'où je viens et ce que je vais penser, et sans doute qu'ils peuvent penser que je vais les juger un peu. Donc il y a une sorte de réticence de la parole chez ces personnes âgées aujourd'hui, qui ont 92 ans, ils sont quand même assez âgés.
Mmh. Sébastien Goutels, vous avez aussi fait les rencontres avec Philippe Collin, ou comment est-ce que vous avez voulu rendre Marcel Grob, parce que il y a un côté où il a un peu un visage d'ange, il y a une empathie qui se développe avec lui au fil des pages.
Moi, je suis pas parti des portraits de Marcel Grob. J'avais besoin, moi, de rentrer en empathie avec lui, de pas avoir ce filtre d'une certaine réalité. Et du coup, il est venu un peu naturellement, comme ça, dans mon crayon. Et je l'ai laissé assez lisse, en fait, pour qu'on puisse se projeter dedans. Ah oui. Ça faisait partie de l'idée de base.
Très bien. La BD s'ouvre sur un juge. Mm-hmm. Marcel est amené devant un juge jeune qui porte un gilet.
Et une cravate.
Le juge, est-ce que qui l'amène à percer l'abcès?
Oui.
Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le lecteur? Est-ce que c'est la conscience de Marcel? C'est qui ce juge?
C'est les trois à la fois, Starline, parce qu'évidemment c'est moi en partie. Ce juge a 40 ans à peu près, il porte un costume et avec une cravate. Et parce qu'en fait, on a essayé de placer le lecteur dans une forme de cliché. C'est-à-dire qu'on présente à un juge, un vieux monsieur qui a été nazi, jeune, combattant dans les forces armées nazies. Donc forcément, a priori, il est coupable. Et donc, on a essayé de projeter chaque lecteur et lectrice dans cette position, a priori, d'un Waffen-SS. Alors explique-nous, Marcel. Et l'idée qu'on a dans ce processus de lecture, c'est d'amener le lecteur par lui-même. Parce qu'avec Sébastien, on ne voulait pas asséner une vérité. On ne voulait pas décréter que Marcel était innocent. On voulait que chaque lecteur et chaque lectrice s'empare de l'histoire et chemine avec nous et avec le juge pour peut-être avoir une autre image de ce que c'est qu'un malgré nous Waffen-SS en 44.
Est-ce que vous vous excusez vous-même d'avoir réagi comme ça?
En tout cas, cet album fait acte de réparation. Je ne sais pas si je m'excuse, mais je vais vous raconter une petite histoire avant que tout ça m'échappe. parce qu'une fois que le livre naît, bah, il nous échappe. Je suis allé à Belfort, là où il est enterré, et j'ai été déposer un album sur la tombe. Évidemment, je ne suis pas idiot, il ne va pas le lire. Hein, mais je trouvais ça important d'y aller. On était donc, moi, tout seul devant cette tombe. J'espère qu'il a été volé. Et que quelqu'un a lu cet album en voyant le nom de Marcel sur la.
Il y a des chances, on est en France.
Bah, sinon, allez-y, il est peut-être encore là-bas.
Mais je voulais faire ça pour une sorte d'apaisement en me disant voilà, je dépose cet album-là. Pour moi, c'est le début de cette aventure d'album bande dessinée qui va naître dans les médias, chez le public, chez les libraires, etc.
Voilà. Est-ce que les choses auraient été si différentes après tout si vous avez dit quand vous aviez 20 ans, si vous avez raconté cette histoire? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous n'auriez pas quand même coupé les ponts avec lui?
Je ne pense pas, vu ce que je sais aujourd'hui. C'est une très bonne question parce que aujourd'hui, je sais que non, je n'aurais pas coupé les ponts en connaissant toute l'histoire, les enjeux, les choix moraux qui portaient sur Marcel. Vous l'avez dit, Clara, mais quand même, le choix de Marcel, c'est de sauver sa famille. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le Gauleiter Wagner avait imposé à tous ses gamins, sur non-présentation à la convocation militaire, de la déportation de toutes les familles en camp de travail en Silésie. Et donc, c'était pour tous ces gamins, les petits frères, les petites sœurs, les grands-pères, parce que toute la famille partait dans ces cas-là. C'était aussi pour ces gamins de faire le choix de sauver leur famille à 17 ans. Et quand on comprend ça, on comprend le piège qui est tendu à ces gamins qui ont encore une fois 17 ans. Hein. Qu'est-ce que c'est que 17 ans face à la guerre? C'est quand même la question que pose le récit, aujourd'hui en tout cas.
On n'est pas sérieux, c'est ce que...
Oui. Absolument.
Ça s'appelle Le Voyage de Marcel Grob. Autant vous dire qu'on vous le recommande chaleureusement. Clara Dupont-Menon y reviendra tout à l'heure. C'est paru chez Futuropolis avec les dessins de Sébastien Gotels qui est en notre compagnie. Et bien sûr, Philippe Collin, c'est France Inter.
La chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler.
Fume à la radio celle-là, on rigole. Pink Martini, bien sûr, sympathique. Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Et il y a Philippe Collin qui est avec nous, Tissi, de l'œil du tigre.
Oui,
et
je
avec
suis là.
Lui, Sébastien Goutaz, le dessinateur. Ensemble, ils ont édité une magnifique BD sur les Malgré nous. On salue tous ceux qui nous écoutent en Alsace. C'est Le Voyage de Marcel Grob, dont Qui va nous en parler d'ailleurs?
Il me semble que ça pourrait être Clara Dupont-Moretti.
Normalement, oui.
Guillaume Meurice parlera de ce qu'il veut, mais ça, de toute façon, c'est le cas.
Un autre malgré nous, c'est Carlos Ghosn qui a retenu malgré lui.
Rukiatra s'adressera au monde entier. Alors ça va faire pas mal de personnes.
Et l'information, c'est parti.
Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose.
Le journal de presque 17h17.
Pensez printemps, mes amis.
Et on commence par les titres.
Suite au mouvement des Gilets jaunes qui dégénère à La Réunion, Emmanuel Macron a annoncé une réponse intraitable aux violences.
C'est bien, on attend maintenant la réponse intraitable à l'évasion fiscale, au chômage et à la précarité.
Incident à l'Assemblée nationale, le député Jean Lassalle a provoqué hier l'interruption de séance en arborant un gilet jaune.
Oui, et ce qui est fou, c'est que quand il protège Jean Lassalle, on le comprend mieux quand il porte un gilet jaune que quand il parle.
Et Philippe Collin attend les brèves.
Hein. Ben bien sûr, et je serai intraitable sur les brèves.
Il est venu pour ça,
on l'a dit.
Parler des nazis et les brèves.
Absolument, c'est ces deux passions. Oui. On commence par l'événement de la soirée.
Et oui, Nicolas Hulot est ce soir l'invité de Léa Salamé et Thomas Soto sur France 2 dans l'émission politique.
Maintenant qu'il a démissionné, comment il va faire pour offrir à Léa un nouveau moment de grâce? À moins qu'il s'immole en direct en s'aspergeant de bioéthanol, on espère.
2 heures de grâce. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que la manifestation parisienne des Gilets jaunes de samedi aura lieu au Champ de Mars.
Oui, c'est cohérent, aller sur Mars pour emmerder Jupiter.
Et hier, sur BFM, Franck Brûleur, l'organisateur de cette manifestation à Paris, a émis une idée assez amusante.
Et oui, on lui a fait remarquer que venir à Paris de toute la France en train, ça pouvait coûter cher. Petite astuce.
Si les trains sont remplis de gens en gilets jaunes qui apprennent par cœur en chinois en rapport avec le jaune, la phrase « je ne comprends pas » et que les contrôleurs passent et demandent leur ticket et qu'ils répondent une phrase en chinois, eh bien, qu'est-ce que va faire la SNCF? Elle va arrêter tous les trains?
Bam! Est-ce que c'est pas malin? Alors, comme nous, on est service public, eh ben, on vous donne la trad. Écoutez bien, parce que ça passera qu'une fois. Voilà. Vous dites ça et a priori c'est cadeau. C'est cadeau le voyage.
Si vous dépensez encore plus de carbu et qu'il y ait moins de trains en France, n'hésitez pas surtout. Hein. Super.
Comme Coulis, c'est Michel Lettre. Oui.
Allez, syndicat, force ouvrière condamnée pour non-respect du droit du travail.
Et ouais, c'est dingue. C'est comme si les bénévoles des Restos du Cœur dépensaient tout l'argent récolté par les enfoirés pour se payer un gueuleton chez Ducasse.
Et on dit université, les étudiants étrangers devront payer plus cher.
Eh ben, c'est bien fait que ces étrangers arrêtent de nous voler les études des Français.
International, la Grèce délivre ses premières autorisations pour cultiver du cannabis thérapeutique.
Oui, Doc Gynéco s'est inscrit un cours de Sirtaki.
Une page santé, car des experts ont confirmé l'état végétatif chronique irréversible de Vincent Lambert.
Oui, c'est dommage que ce soit en France et pas en Algérie, sinon il aurait pu être candidat à la présidentielle.
Santé, toujours. Le centre de recherche de l'hôpital Saint-Antoine est en quête de donneurs. Pour développer la pratique de la greffe fécale, ils sont prêts à vous donner 50 € pour récupérer vos selles.
50 €, le cours de la matière fécale augmente, sachant que le dernier livre d'Éric Zemmour tourne autour des 20 €, lui, à peu près.
Et l'absentéisme au travail coûte 108 milliards d'euros par an.
Et oui, et proportionnellement, la présence au travail de Carlos Ghosn coûte encore plus cher.
Coupe du monde au Qatar, une nouvelle plainte pour travail forcé et traite des êtres humains contre Vinci.
Et oui, Dan Brown compte écrire le Da Vinci Code du Travail, très bientôt.
Écologie maintenant, le thon obèse est en voie de disparition.
Et oui, un phénomène qui explique la disparition des boîtes de nuit de province.
Et des brèves.
Je vous laisse avoir l'image. Hein, un petit peu.
Oui, d'accord.
C'est raffiné. En Allemagne, spécial Allemagne aujourd'hui, le prêtre pique dans la caisse de la paroisse pour jouer en ligne et se fait arnaquer. Voilà donc un deuxième catholique après François Fillon invité à rendre l'argent.
Allez, une dernière.
Et ouais, l'Allemagne toujours, un jeune homme se fait retirer son permis de conduire 46 minutes après l'avoir obtenu. C'est le François Bayrou du pilotage automobile.
Merci Alex. 17h26 sur France Inter, en compagnie de Philippe Collin et du dessinateur Sébastien Gotals. On va aborder avec vous ce premier sujet. Tiens d'ailleurs, vous dédiez cette bande dessinée à toute la jeunesse d'Europe. Alors on a choisi ce sujet sur l'ultra-droite, l'extrême-droite et même la droite dure, qui commence à se la jouer très cool. Au point de reprendre certains codes bobos, comme la figure du hipster. D'ailleurs, le leader des identitaires autrichiens en est l'incarnation. Alors, est-ce la d'une sorte de fascisme glam où on fait des selfies avec Le Pen qui elle-même pose avec Salvini sous le crépitement des flashs.
Tu ne laisses personne dire que tu es raciste. Tu ne dis pas immigré, tu dis étranger. Tout ça, ce n'est pas la faute des
étrangers,
mais des
politiques.
Très bien. tu es pour la préférence nationale, mais ça ne veut pas dire...
Préférence ethnique.
Correct. Certaines religions sont incompatibles avec la République.
L'islam?
Non, non, ça, on dit pas. Et pas de généralité. Les buralistes ne sont pas tous des...
Nyakoué.
On dit asiatique, Thibaut. Tu dis tout haut ce que les Français pensent tout bas.
Ses frères animaux, Florent Marché et Arnaud Catherine notamment. Nous avons été interpellés par cette une du magazine Technicart, facho-bohème. Faut-il avoir peur de l'ultra-droite en basket? Et puis on a vu Génération Identitaire l'année dernière, avec leur doudoune bleue, faire des selfies avec des belles dents blanches, etc. Et on s'est dit, tiens, est-ce que au-delà de la dédiabolisation, on est déjà dans une normalisation au point qu'on est... pas loin d'une espèce de, ouais, de fascisme glam, où une frange de la jeunesse fait des selfies avec Marine Le Pen, sa nièce, etc.
Tout ça est à la fois complexe et anxiogène, mais c'est aussi très réfléchi. Il ne faut pas penser que ça vient de nulle part, c'est-à-dire que c'est une démarche qui vise à faire sauter le verrou entre la droite et l'extrême droite, qui est très pensée, notamment par l'auteur du suicide français. C'est des choses qui sont très, très, très réfléchies, parce qu'en fait, on veut amener l'électeur de droite a dédiabolisé son vote pour l'extrême droite. Et moi, je ne sais pas trop quoi faire face à ça. Alors, samedi matin, sur les ondes de France Culture, était invité l'auteur donc, du suicide français. J'ai écouté cette émission, j'étais un peu agacé chez moi et je ne savais pas quoi faire. J'étais démuni, j'étais un peu perdu. Et puis, il y a un historien qui s'appelle Laurent Joly, qui est un très bon historien français, 42 ans, brillantissime, a fait une recension de toutes les inepties que raconte l'auteur du suicide français. Mais elles sont longues comme le bras. C'est-à-dire que samedi matin, il est chez Alain Finkielkraut et il raconte des choses, mais hallucinantes, dans une idée de réhabiliter le maréchal Pétain. Mais quand on lit, et je vous encourage à aller sur la page Facebook de Laurent Joly, de regarder, parce que c'est le seul moyen qu'on a, c'est d'être au point à point. C'est-à-dire qu'il dit un truc, est-ce il faut répondre à un truc.
C'est pas le travail du média.
Oui, bah peut-être que nous, on devrait aussi porter ça, Alex.
Non, mais est-ce qu'Alain Finkielkraut n'aurait pas dû
alors ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Parce qu'en face, il faut être très, très fort. Bien il faut sûr. Être Laurent Joly aussi, parce que c'est très dur. Quand une personne assène des vérités et qu'elle a l'air très sûre d'elle.
Le livre, il l'a reçu une semaine avant, le livre.
Bien sûr, c'est vrai. Mais c'est vrai que Laurent Joly, il liste des choses et on se dit, mais c'est pas possible. Mais non. Et en fait, tout est fait pour essayer, en tout cas, de réhabiliter la mémoire du maréchal Pétain, c'est compliqué quand même. Voilà.
Clara
Vizorek pointait du doigt l'idée de la responsabilité médiatique. Quand on voit que les chaînes d'infos en continu, notamment les BFM TV, etc., invitent sans arrêt cette ultra-droite si glam, les chaînes de télé elles-mêmes reconnaissent en sous-main qu'elles ont beaucoup plus de mal à trouver des journalistes à la gauche de la gauche que des journalistes ou des intervenants de l'ultra-droite. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que tous ces médias-là portent la responsabilité aussi d'une ultra-droitisation de la société?
Oui. Moi, c'est compliqué parce que quand on travaille dans les médias, on est toujours jugé parti dans cette histoire. Mais c'est vrai que moi, je me souviens d'une époque, il n'y a pas si longtemps, quand Jean-Marie Le Pen venait sur Inter, c'était un événement. Et parce qu'on en avait peur, on ne savait pas ce qui allait se passer, il venait 3 fois par an maximum. Et il venait une fois sur Inter. Bon, aujourd'hui, on a libéré cette parole un peu partout, sur tous les médias, parce qu'aujourd'hui, il y a une explosion de l'offre médiatique.
Et parce que le CSA l'impose aussi.
Exactement.
Et parce
que
ça fait de l'audience.
Oui, et voilà, c'est ça le problème. Bah ouais. C'est que c'est pas Alex qui a parlé.
Non, c'est moi. Les trucs intelligents, c'est moi. Tout ce qui est bref, c'est Alex. On vient à Chihuahua.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très banal. Et la banalisation de ce discours-là... fait que ça entraîne tout le bloc politique de ce côté-là. Tout le bloc se retrouve emporté vers là. Et moi, je n'ai pas la solution. Je ne suis pas un homme politique. Je suis très modeste dans ce que je fais. Mais ça, c'est un cauchemar pour moi. Vous savez, moi, j'ai 43 ans. J'appartiens à une génération qui a en charge cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Quand j'étais gamin, on me disait « quand les vieux seront morts, il faudra se souvenir ». Ils sont en train de disparaître, ça y est. Dans 10 ans, il n'y en aura plus des survivants de la Seconde Guerre mondiale. Parce que le Rassemblement National, c'est comme ça qu'il s'appelle désormais. Sa racine, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Voilà, elle est là, sa racine. Et du coup, il ne faut pas l'oublier, ça. Voilà. Et donc, je pense que cet album, modestement, très modestement, vient rappeler certaines choses que quand on confie... Vous savez, il y a un vieux proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit que quand on chevauche un tigre, on ne peut plus mettre un pied à terre. Et il y a des choses, parfois, on est tenté de chevaucher le tigre, mais c'est très dangereux.
Ne faites pas ça chez vous.
Voilà.
Si vous avez un tigre, voilà.
Pour ça, par exemple, il place un vote sur l'émission, évidemment.
Non, C'est bien placé, c'est bien placé.
C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un dossier historique dans votre BD, Philippe Collin et Sébastien Goutals. Il y a un dossier historique de Christian Grau pour bien expliquer et les malgré nous et tout le contexte autour. C'est donc Le Voyage de Marcel Grop, hein, paru chez Futuropolis, une coédition France Inter. Et ce dossier de Technicart avec les fachos bohèmes et l'ultra-droite en basket. Et notamment Charles Consigny et consorts, les réacs les plus sympas de Paris, les plus téléchéniques. Bien sûr, on vous conseille ce dossier. Oui. Rokhata Ouédraogo est en notre compagnie dans Par Jupiter.
Ça y est.
Ouais, c'est vous.
C'est votre tour.
Oui. Alors, récemment, Corinne Zemmour est venue de faire le bilan du maréchal Pétain dans l'émission réplique d'Alain Fenkelkron.
Il va être content. Il va déjà qu'il vous aime pas spécialement, mais...
Fenkelkron. Voilà. Alors, il paraît que certains se sont émus de l'entendre sur une radio comme France Culture. Moi, je pense qu'un média public doit laisser s'exprimer toutes les voix, comme par Jupiter qui couvre une grande variété d'opinions allant de l'islamo-gauchisme à l'islamo-gauchisme. Mais France Culture a heureusement fait corriger les propos de Zemmour par de vrais historiens. Il faut un peu de rigueur parfois car l'air du temps est pollué par une certaine télévision qui cultive et chouchoute les bons clients comme Zemmour. Car être à la pointe de la modernité de nos jours, c'est détester son prochain et de venir le dire à la télé. D'habiles animateurs mettent en scène la haine ordinaire dans l'espoir d'un buzz ou un clash qui alimentera la chronique des médias sur Internet pour une semaine. Pierre Desproges, l'inventeur du concept « lui savait lui », rend la haine ordinaire drôle et enthousiasmante. Le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe tous les jours comme un cadavre qui a la maladie de la bougeotte. Alors j'ai réfléchi et puisque les patrons de télé veulent choquer les gens, j'ai une idée révolutionnaire qui va provoquer des arrêts cardiaques dans les chaumières. Écoutez-moi ça, les amis. Pourquoi ne pas inviter de vrais historiens pour parler de l'histoire de France ? Je ne parle pas des polémistes qui se font du bien tout seuls en parlant de Jeanne d'Arc ou des amateurs de vieilles pierres qui tombent en pamoison devant les châteaux d'Idisleyland. Hein. Non, je parle de vrais historiens qui pourraient venir nous parler de notre histoire, notre vraie histoire. Vous trouvez ça dingue, hein ? Bon, accrochez-vous les amis, j'ai encore plus fort.
C'est décalé.
J'ai encore plus fort. Pourquoi ne pas inviter des historiens algériens à venir parler de l'histoire franco-algérienne ? Des historiens du Moyen-Orient qui viendraient nous raconter les croisades et le conflit israélo-palestinien. Un économiste africain qui viendrait décortiquer les relations économiques entre l'Europe et l'Afrique. Waouh, ça dépoterait ça, hein ? J'ai encore mieux. Un intellectuel polynésien qui parlerait des essais nucléaires en Polynésie française. La guerre d'Indochine racontée du point de vue asiatique. Ça aussi, ça doit avoir de la gueule, non ? Il y a tellement de gens plus intéressants que les polémistes de télé devraient passer tout leur temps à s'excuser d'être là et à remercier tout le monde de les écouter. En tout cas, moi, aujourd'hui, je voudrais remercier tous les auditeurs et auditrices qui m'écoutent. Merci à vous, vous êtes ma chance. Et bien sûr, merci à vous deux, Charline et Alex. À Alex, mes Belges préférés. Quand vous m'avez repéré, j'irai dans des secondes zones. Je serrai des poignets de seconde main. Je mâchais des chewing-gums de seconde bouche en attendant le passage de ma seconde chance. Et vous me l'avez donné. Le mot « merci » est très petit pour vous remercier. Ma mère vous remercie. Mon tonton Théophrate vous remercie. Mon quartier de Ouagadougou, le Burkina Faso vous remercie. Voilà. Et pour finir, je voudrais dire à tous les cerveaux fermés, les cœurs serrés, les foies aigris, les rates contractées, dilatez-vous. Et arrêtez d'échanger entre vous des insultes qui expriment toutes vos phobies et faites-vous à la place des bisous qui expriment tout votre amour. Car, comme dit mon oncle, si tu veux changer une hyène en bon chien, caresse-la. Et si tu veux changer un bon chien en hyène, bats-le.
Rokhata Ouédraogo, merci Rokhata. On est tellement heureux de vous avoir avec nous.
Oh, c'est un Jupiter.
Merci.
Ça m'arrange quand même bien le racisme pour mes chroniques, s'il peut en rester quand même 4-5. Quand même, voilà. C'est bien aussi, c'est bien aussi.
C'est
vous avez le droit d'avoir la haine.
Ah ouais. Ah ben, pour votre peine, Fatoumata Diawara.
Bim.
Et bam.
Corinne Diawara.
Ouais, vas-y, chauffe Corinne, chauffe.
Mana que
Sur France Inter, si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Philippe Collin. Ah ouais, il est là, un jeudi. Il publie une bande dessinée avec le dessinateur Sébastien Goutels, qui est parmi nous aussi, Le Voyage de Marcel Grob. Et Clara Dupont-Mono va y revenir dans quelques instants. Mais nous, entre-temps, nous allons et traiter un sujet et écouter Guillaume Meurice.
Oui, bah, je vais vous parler de Carlos Ghosn aujourd'hui, parce qu'en France, on n'aime pas la réussite. C'est vrai, on le sait, j'en prends ma part. Hein. C'est vrai que je suis le premier à vanner Alex parce qu'il gagne chez Ardisson le PIB du Burundi en 6 minutes. Mais c'est comme ça en France.
8,5.
Excusez-moi. On n'aime pas les premiers de cordée, et a priori au Japon non plus, puisque Carlos Ghosn, le patron de Renault, est en garde à vue pour fraude fiscale. Voilà, après la Xara Picasso de Citroën, la Twingo Cahuzac sera en étude bientôt chez Renault. Parce que Carlos, c'est pas seulement un prénom qui mélange voiture piégée et tirelipinpon sur le chihuahua, c'est aussi un gars qui gagne 850 fois le SMIC. C'est-à-dire que le temps que je prononce cette phrase, Carlos, il peut racheter Radio France. Voilà. Et confier à Dominique Seux la case humour absurde. Ça changera pas grand-chose, mais il peut le faire. Alors, existe-t-il encore aujourd'hui des actionnaires qui défendent, malgré tout, ce bon vieux Carlos? Eh ben, je suis allé au grand congrès actionnariat pour le savoir. Et tout d'abord, je vais vous dire, l'ambiance est au recueillement.
C'est quand même triste, en fait. Bon, c'est sûr que c'est quand même un capitaine d'industrie qui a redressé de Renault, Nissan, etc. On doit lui en savoir gré, mais
vous êtes triste pour ça. Carlos Ghosn.
Ah oui, oui, non, mais tout à fait.
Ouais, c'est la tristesse, hein, c'est le sentiment qui domine évidemment aujourd'hui chez tous les Français. Hein. Alors bien sûr, il y a un élan de solidarité à travers tout le pays. Il y a un concert hein, ce soir qui est organisé sur la 86 avec le chanteur Renaud, bien évidemment. Hashtag Nadine Morano. Renaud qui reprendra ses plus grands tubes, notamment Hexagone, Carlos. Et Morgane de Toi Ouvrant. Enfin, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Allez, on continue.
Il faut dire aussi au départ, c'est un homme qui était quand même très intelligent.
Oui.
C'était un très bon, il paraît. Hein. Bon, maintenant qu'il soit un peu loulou, hein. Plus on est intelligent, plus on... Vous avez compris, hein.
Plus on est intelligent, plus on est loulou.
Je crois
aussi, hein. Vous seriez intelligent que vous seriez loulou aussi, hein. Voilà. Bon, Carlos le loulou, d'ailleurs. On l'appelait en comité de direction. Tombé au nom de son intelligence, comme Bruno Le Maire, hein. C'est fou, hein. C'est vraiment un talent français gâché. Vaut mieux être con dans ce pays, en fait. Merci Énergie 12 pour tout le boulot qu'ils font tous les jours pour ça. Mais bon, alors c'est pas le seul problème, l'intelligence. Le problème, c'est que Carlos, il a travaillé avec des Japonais. Et on sait très bien comment ils sont, les Japonais.
Les Japonais, ils sont méchants, hein, attention, parce que...
Les Japonais, c'est des gens méchants.
Oh là là, ils sont mauvais, ils voient rouge. Hein.
Ah oui?
Ah oui, ils voient rouge. Ça, je peux vous dire qu'il ne faut pas les faire marron. Hein.
Pour les faire marrons, les Japonais, parce que sinon ils voient rouge, hein, on le sait, on a tous lu les livres d'anthropologie de Michel Leeb. Nous-mêmes, dans l'émission, on hésitait entre une Burkinabé et une Japonaise. Eh ben, on a choisi. Voilà. On pige pas un mot de ce qu'elle dit, mais on a moins peur. On a moins peur, ça, c'est important. Et puis, on le sait, les Japonais, ils sont fourbes.
Je pense que les Japonais vont se débarrasser de Renault, surtout. Voilà.
Ah, vous pensez que c'est ça?
Oui, oui, tout à fait. C'est pas possible qu'un gars aussi intelligent, quand même, puisse, pendant 5 ans, acheter n'importe quoi sans que Nissan soit au courant.
C'est un complot, alors?
Oui, tout à fait.
Ah ouais,
pensez-vous? Ah ouais, complètement. Ah, je suis presque persuadé. Hein.
Ah, on est sur de la presque persuasion. Putain, j'en étais sûr. Moi-même, j'en étais sûr. Putain de Jap. Depuis Pearl Harbor, je leur fais plus confiance. Hein. Ils ont essayé de tuer Ben Affleck, quand même, je vous rappelle, les enfoirés. On est sur un complot. On est sur un Laguna Gate. Je vais vous dire, je m'en doutais.
Ils ont voulu faire une OPA sur lui, quoi, tout simplement. Hein.
Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'un mec comme ça détourne un peu, peut-être, du pognon?
Oui, non, mais enfin, c'est pas tout à fait. Oui. Parce que la moitié de ce qu'il n'a pas déclaré, je pense qu'en France, vous êtes tout de suite pour opérer. Hein. Mais eux, non, tout va bien. Attendez.
Ah, en France, il y en a qui fraudent le fisc quand même, non?
Maintenant, ça devient de plus en plus difficile.
C'est vrai?
Ah oui. Moi, je... Non, mais bon...
Il vaut mieux peut-être s'arrêter là, hein, parce qu'on est quand même pas mal écouté par les contrôleurs des impôts aussi. Mais c'était beau, le « moi, je », oui, non, mais bien sûr. C'est la ligne de défense de Balkany, hein, d'ailleurs. Oui, mais bien sûr, oui, je d'accord. Bon, après, la fraude fiscale en France, c'est que dalle, on n'est pas à 100 milliards près. Mais bon, voilà, du côté des actionnaires, c'est l'abattement. Hein, c'est pas l'abattement fiscal, mais c'est l'abattement, le choc. On spécule sur la stupeur.
Écoutez, je suis vraiment surpris de la justice au Japon, parce que débarquer d'un avion et se faire incarcérer tout de suite... on ne sait même pas ce qu'on lui reproche.
Ah ben, quand même un peu de fraude fiscale, a priori.
Non, je suis très surpris de la justice au Japon. Ça, c'est...
Ce qu'il faudrait en France, c'est pas une justice comme ça, justement.
Oui, non, c'est très, très surpris.
La surprise est totale. La surprise est totale, au point de plus vraiment entendre bien les questions. Rendez-vous compte, les autorités japonaises ont appliqué la loi. C'est ça qui est fou, hein. Alors que la loi en France, c'est pour les pauvres qui volent du pain ou des chips, quoi. Là, ils l'ont chopé dans son jet, quoi. Moi, je suis désolé, c'est quelque chose qui me touche. Quand je prends mon Vélib, bah, je suis plus tranquille. Voilà, je vais moins faire le malin. De toute façon, je le disais, en France, on a un problème avec la réussite.
Il y a sûrement un problème avec la réussite. Bon, c'est sûr qu'il a un salaire colossal, mais...
Est-ce qu'il le mérite, ce salaire ?
Écoutez, mais ça, c'est trop facile de dire... Bon, on lui en veut d'avoir un trop gros salaire, ça, c'est évident. Il fait des jaloux. Il fait sûrement des jaloux.
Et c'est le problème français, la jalousie. Il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien, disait le poète. On espère que Carlos ne passera pas du premier au second. Si tu nous écoutes, d'ailleurs, Carlos, on te dit big bisous. Hein, et puis, on te fait des cœurs avec nos déclarations d'impôts.
Bah oui, il n'a que 3 bols de riz par jour en garde à vue. C'est
terrible. Il doit nous écouter.
Merci, ça, Guillaume. Carlos.
20 jours de garde à vue, quand même. C'est vrai que tiens, côté 20 jours de garde à vue.
Ça va, ça va. En plus, franchement, il paraît que les toilettes au Japon, c'est mieux que la cellule. Donc, si ils demandent d'aller aux toilettes souvent, et c'est réglé. Ça c'est va, pas pleurer Dieu, non plus.
C'est allez, hygiène pour vous laver.
Bah oui, c'est ça.
Ça provoque des sensations.
Bah voilà, déjà, c'est bon, quoi. Allez, 17h44 sur France Inter. C'est Philippe Collin qui est avec nous en compagnie du dessinateur Sébastien Goutals. Et on va aborder cet autre sujet. Tiens, comment rendre à l'Afrique les œuvres que la France a spoliées. Emmanuel Macron avait émis l'idée d'une restitution temporaire ou définitive depuis Ouagadougou. Un rapport sur les modalités lui sera rendu demain. Même les œuvres africaines seront donc reconduites à la frontière, normalement.
Allez, salut.
on la garde. Attendez. Sauf Rukyata qu'on garde. Voilà. Mais attendez, pour l'instant, c'est qu'un rapport. Si ça finit comme le rapport Borloo sur les banlieues, voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous savez que ramener une statuette africaine, ça coûte cher.
C'est combien la statue là ? Le
masque ? 30 000 francs.
Combien ?
30 000 francs.
Oh, elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien la statue ?
J'ai dit 30 000.
On dit que tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça ?
Non, 30 000.
20 000 francs ?
Non, 30 000.
25 000 ?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000.
C'est les bronzés, bien sûr. Alors, on se demandait, vous êtes aussi historien, Philippe Collin, vous avez fait des études pour ça. Qu'est-ce que ça représente ? Oui, vous avez fait des études pour faire histoire.
Vous avez notamment le bac. Oui, ça s'appelle.
Attendez, il a fait universitaire. On a un universitaire avec nous, quand même. Qu'est-ce que ça représente si ça se réalise ? C'est vraiment un tournant dans l'histoire néocoloniale ? C'est plus qu'un symbole ? Ça vous étonne ?
Il y a des exemples de passé qui sont... On a déjà rendu certaines choses à des pays, ça arrive. Mais je crois, pour l'instant, que je peux être un peu macronien sur le sujet. Ouais. C'est-à-dire que j'aime bien
le gros mot, Non, mais vous savez où vous êtes, Philippe Collin.
Malheureux.
Coupez-lui le micro immédiatement.
Ouais. Non, je me désolidarise.
Mais j'ai pas dit macroniste, j'ai dit
macroniste. Son dessinateur. Pour le volume 2,
laissez-le parler, regardez, il y a une censure.
Non, mais je me disais qu'en fait, je crois qu'il propose de rendre en partie définitivement des œuvres d'art aux pays spoliés. Et je trouve que c'est peut-être pas mal comme voie du milieu d'imaginer ça, de rendre. On a pris trop de choses, on a pillé tellement de choses.
Donc c'est pas tout en fait.
Non, peut-être qu'on peut en garder. C'est important aussi, je pense, de garder la mémoire de l'Afrique ou de l'Asie en Europe. C'est pas inintéressant.
C'est ce que disent beaucoup de conservateurs. Voilà. Disant sinon c'est chacun chez soi, or l'arbre, l'art il circule.
Là on ferme le Quai Branly, le musée du Quai Branly.
On peut aller plus loin que Macron dans ce qu'on. On réexpédie, on peut aussi mettre de l'art européen. On peut offrir des Picasso, par exemple, à des pays africains, ou je sais pas, du Marc Chagall en Asie. On peut peut-être faire
un Magritte à Abu Dhabi. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est au Louvre.
Oui, bien sûr. Mais voilà,
je pense que c'est climatisé.
Oui. On peut le voir.
Et à Ouagadougou, on a vu la dernière fois que la clim était cassée, c'est le président qui a dû y aller, je me rappelle. Ça part en zèle, ce sujet.
Peut-être aussi qu'il faudrait prévoir de quoi accueillir ces œuvres d'art dans les pays africains en question, puisque à un moment, le conservateur belge, notamment
du musée de Tervuren,
disait qu'il avait donné 114 objets au musée du Zaïre et qu'ensuite, peu d'années après, il n'en restait plus que 21, puisque une partie avait été vendue sous la présidence Mobutu. Donc il y a aussi quand même une façon...
Beaucoup d'enfants, hein. Oui, mais...
Donc de la part des conservateurs européens...
C'est pour décorer la chambre des petits, il ne les a pas vendus.
Philippe Collin est un sage, vous cherchez une troisième voie, c'est-à-dire entre le définitif et le temporaire.
Donner aussi une partie de peut-être d'un héritage qui est le nôtre à d'autres continents, en fait, ou pourquoi pas.
Moi, je rejoins Clara en disant aussi qu'il faut créer des structures là-bas, des musées où on peut garder aussi les œuvres, parce qu'avec la chaleur, avec les choses se déforment, tout et tout, donc ils peuvent aussi
ce
faire
ça. Ce sera probablement le cas au Bénin, nous dit le journal La Croix, et en tout cas, un argument pour, c'est de permettre à ces peuples de se reconstruire leur histoire et leur mémoire. Et c'est comme ça qu'on en revient au voyage de Marcel Grob. La mémoire, l'histoire. J'ai bossé mes transitions.
Une émission de radio.
Ah, c'est moi, ça veut dire que c'est moi. Ah, la chroniqueuse littéraire de l'émission.
Vous savez l'argent qui est brassé sur votre compte, en fait. C'est en échange d'une chronique hebdomadaire.
Oui, parce que l'actualité, c'est, elle l'a rappelé, Charline, avec talent, la bande dessinée de notre invité, Philippe Collin, Le Voyage de Marcel Grob, je rappelle, mis en dessin par Sébastien.
Stéphane.
Sébastien.
C'est écrit, tu vois. Il a bossé avec un mec qui s'appelle Jean-Michel aussi, qui lui lavait les pinceaux.
Ouvrez vos oreilles parce que vous en sortirez un chouïa moins bête. Cette BD est le fruit d'un double remords. Moi, je l'ai lu comme ça, un double remords. D'abord, il y a le vôtre, Philippe Collin, votre remords, celui de n'avoir pas compris l'histoire de votre grand-oncle, Marcel Grob. Toute votre vie, vous l'avez vu comme un SS consentant, si on peut le dire comme ça. Or, après sa mort, vous découvrez qu'il était d'abord un malgré nous pendant la guerre, je rappelle, un Alsacien, donc à ce moment-là allemand, obligé de s'enrôler dans les Waffen-SS. C'était ça où les nazis s'en prenaient à sa famille. L'autre remords vient de Marcel lui-même, parce que on n'est pas SS même de force sans en ressortir complètement indemne, surtout quand on a participé au massacre de Marzabotto, qui était un petit village italien qui compta 770 morts, toutes civiles, en 1944, et Marcel, bien malgré lui, était à la manœuvre. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, Philippe Collin, c'est que la littérature adore le remords. Bonne nouvelle. Elle en raffole, elle s'est beaucoup nourrie de lui. Et pourquoi ? Eh bien parce que le remords, d'abord, il met les personnages en transe. Il les travaille, il les obsède, il les rend fous. Prenez Thérèse Raquin d'Émile Zola. Alors, c'est pas son plus connu d'Émile Zola comme roman. Moi, je trouve que c'est pourtant un de ses meilleurs. Comment réagit Thérèse une fois qu'elle a poussé son mari dans l'eau ? Elle était dans une barque, elle est avec son mari et son amant, qui par ailleurs est un abruti. Et à eux deux, amant et Thérèse, ils ont poussé le mari dans l'eau et il s'est noyé. On peut se dire, ça y est, les amants vont vivre heureux, enfin Thérèse peut commencer sa vie. Mais ce serait de l'angélisme, Philippe Collin, et cela ne nous ressemble pas.
Non.
Cette candeur de petit bourgeois qui rêve de séisme, état d'esprit que connaît si bien Guillaume Meurice, d'où son engagement politique. Et donc, que se passe-t-il pour Thérèse Raquin, une fois qu'elle a éliminé son mari ? Eh bien, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Thérèse voit le corps de son mari partout, notamment dans son lit. Elle sent, je cite, comme des lambeaux, et donc elle ne peut plus étreindre son amant. Elle a des hallucinations, exactement comme Raskolnikov dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, qui a commis un crime à coups de hache et qui ensuite voit des spectres partout. Et exactement aussi comme votre oncle Marcel, qui vit le passé finalement dans un délire mémoriel. On ne va pas spoiler la fin de l'album, mais n'empêche que c'est un délire mémoriel. Et en fait, tous sont victimes du fameux vers de Victor Hugo, je cite, l'œil était dans la tombe et regarder Caïn tiré de son poème intitulé d'ailleurs La Conscience. Donc le remords est un flic, une caméra de vidéosurveillance et c'est aussi un baillon parce qu'il impose le silence, il fait son travail de sape en fait dans le calme des hantises et c'est d'ailleurs pour cette raison que Marcel ne vous en a jamais parlé. Et pourtant, c'est bien ici, dans le silence du remords, qu'intervient un autre acteur, en quelque sorte le double positif du remords, qui s'appelle le rachat. Alors, la littérature, elle aime bien les coller, ces deux-là, remords et rachat. D'ailleurs, c'est ce que vous faites avec cet album. Vous réhabilitez votre oncle Marcel à vos yeux, à ceux de l'histoire, ce qui ne signifie pas que vous l'excusez. Mais en dessinant ses yeux écarquillés d'effroi devant un tas de cadavres, vous faites ressurgir quoi ? Vous faites ressurgir le fait qu'il avait une innocence au sens moral, ce qui ne fait pas de lui un innocent au sens juridique. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites dans cet album, c'est qu'on peut faire le mal alors qu'on a l'âme pure. La loi vous désigne coupable, alors même que vous êtes pur innocent. Donc, mine de rien, voilà où nous emmène l'histoire de Marcel Grob, sur ce sentier trop étroit qui traverse nos consciences et qui sépare pas le bien du mal, trop facile, non, qui sépare beaucoup plus délicat le légal du moral. Je vous redonne les références. Le voyage de Marcel Grob, de Philippe Collin et Sébastien Goethals, est paru chez Futuropolis.
Merci Clara Dupont-Mono.
Clara, merci infiniment. Parfois, vous savez, on écrit des choses et on n'arrive pas à les dire comme vous venez de le dire vous. On est porté par des idées fortes comme effectivement les remords, le rachat, le pardon. On essaye d'écrire des choses, on dessine des choses, on met en place des choses et vous les exprimez magnifiquement bien. Merci infiniment.
Merci vraiment, beaucoup.
Merci infiniment. Clara. Et Sébastien Goethals, vous avez dû dessiner le massacre de Marzabotto. Ça a été dans l'étape de le dessin de l'album, ça a été un moment...
Ça collait un peu à la peau, ouais. D'ailleurs, j'en parle à la fin du livre et... Ouais. Dans mes dédicaces, effectivement, il y avait ma petite fille qui le soir me sauvait un petit peu et m'arrachait aux mains des nazis tous les soirs et ça m'a fait énormément de bien. Heureusement qu'elle était là. Et effectivement, c'était pas facile. Après, j'ai trouvé des astuces de mise en scène aussi pour pouvoir accompagner le lecteur jusqu'au bout. Voilà, il y avait un travail sur le cadre à faire qui était intéressant.
Et sur le hors-champ, parle du hors-champ parce qu'il en parle très bien du
J'allais dessus tranquillement. Je te remercie. Non, effectivement, oui, il y avait tout ce travail du hors-champ parce qu'effectivement, ça aurait été absolument... quand on se lance dans une aventure comme ça pour le dessiner... La représentation de la violence, ça devient très très compliqué. Il fallait absolument pas tomber dans le spectaculaire. Il fallait absolument qu'on accompagne le lecteur jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas un moment de rejet comme ça, que le livre ne tombe pas des mains d'écœurement.
Et voilà, qui fait une très belle bande dessinée, on appelle ça un roman graphique même.
Oui, ou une bande dessinée.
Je voudrais juste une mini-seconde insister sur le fait que quand on demande à Marcel Grob de jeter une grenade dans l'église dans laquelle sont entassées 350 femmes, civil. Enfants et civils, et qu'on lui dit si tu le fais pas, tu prends une balle dans la tête, ou alors on assassine ta famille, restée au pays. Que fait-il d'autre que lancer la grenade ?
Et oui, et que ferions-nous à la place de Marseille ?
Mais bien sûr, c'est voilà. Terrible.
Merci Clara.
Merci Clara, merci beaucoup.
Allez, on parle une minute de Michael Jackson, comme
ça. Quand même.
Bien sûr. Oui. Michael Jackson qui entre au Grand Palais, c'est à partir de demain. C'est une exposition qui est consacrée à l'influence qu'il a exercée sur les créateurs contemporains. Là, on va chercher votre côté pop, Philippe Collin. Michael Jackson était lui-même une œuvre d'art, même en français dans le texte. Hein. Petit aperçu. Bah, c'est « I just can't stop loving you ». Comme dirait notre attaché de production Fabrice Riveau, il s'est contenté d'utiliser Google Trad. Et « Je ne veux pas la fin de nous », ça donne, voilà. Ça casse un peu le mythe, mais bon, quand même. À partir de demain, il est au Grand Palais, c'est considéré comme la grande exposition de l'hiver. Vous qui regardez portez un regard et vers l'Amérique et qui êtes féru de pop culture aussi, il fait partie de votre panthéon, Michael Jackson.
Oh là là, oui, immensément. C'est quelqu'un qui a beaucoup accompagné ma jeunesse et mon adolescence. Et il ne faut jamais oublier que Michael incarne avec... Curieusement, mais Arnold et Willie, on s'en souvient de cette série de petits afro-américains à New York. Michael, avant Michael, il n'y a pas de chanteur noir à la télévision américaine. C'est-à-dire qu'on a oublié ça, mais ils sont confinés dans des réseaux parallèles, on va dire. Et Michael apporte ça. Michael apporte sa black attitude. James Brown, ça reste une icône très afro-américaine qui a ensuite est devenue aussi portée par Michael, d'ailleurs aussi dans les plateaux donc de télévision blanc, on va dire. Mais Michael apporte ça. Et il faut toujours avoir ça en tête parce que on a beaucoup ri de Michael. On s'est beaucoup moqué de Michael. Moqué de Michael.
Guillaume peut-être.
Peut-être
une fois. Ouais. Mais, parce qu'il dansait mal. Moi, je danse super bien, si vous me permettre.
Mais vous savez, c'est pas loin les années 80. Arnold et Willie, c'est le début des années 80, fin 79, je crois, sur les chaînes américaines. C'est il y a moins de 40 ans, il n'y avait pas... Vous savez, il y avait les Blaxploitation, par exemple, aux États-Unis. C'est les réseaux de cinéma où il y avait des Blacks mis en scène. Arnold et Willie, ils arrivent sur la télévision nationale américaine. Oui. C'était il n'y a pas si longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est des choses qui, moi, me portent. Et j'adorais Arnold et Willie et j'adorais Michael Jackson.
Et voilà. Donc, vous irez, j'imagine, voir au Grand Palais. Roquetta, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je disais, comme Arnold et Willie, comme moi qui arrive sur la radio nationale.
On n'avait jamais vu
40
ça.
40 ans après.
Il y a Soro Solo et Roquetta Wedraogo. Soro Solo qu'on embrasse. Alex?
Oui, c'est l'heure du sketch, monsieur Collin. Vous n'allez pas y échapper, mon cher ami.
Les lunettes.
Hein. Un rôle, évidemment. Évidemment pour vous, très taillé bien. Sur mesure, Alain Juppé, bien évidemment. car il y avait dîner chez Emmanuel Macron à l'Élysée pour préparer les européennes. Il avait fait une grande tablée, il y avait François Bayrou que j'interpréterai, Guillaume et Macron, vous êtes Juppé et Charline fait le service.
petit apéritif pour commencer ?
Je commencerai bien par un petit jaune.
Non, pas de jaune à l'Elysée.
Je vois pas pourquoi.
Mais ils m'énervent, là, les gilets jaunes, là. Ils me volent toutes mes idées.
Comment ça ?
Ni de gauche, ni de droite, c'est de moi. Moins d'impôts, c'est mon credo. Voilà, ils m'ont tout piqué.
C'est pas faux.
Et leur tenue, attends, c'est d'un goût. J'essaie de rendre la France un peu classe.
Et eux, on dirait un sketch des Chevaliers du Fiel, non ?
Bon, mais je vous apporte tout de suite l'entrée. Alors, c'est un pâté de lièvre et c'est cornichon.
Tiens, en parlant de cornichon, Alain, François, vous savez pourquoi je vous ai invité ce soir ?
Pour manger ?
Oui, Alain, bien sûr, mais aussi pour parler des européennes qui ont lieu dans 6 mois.
Ah ben tiens, en parlant de pâté.
6 mois, waouh. C'est long, ça fait 6 fois plus que mon passage au ministère de la Justice.
Effectivement, d'accord, mais l'heure est grave, les sondages donnent La République En Marche à 20%.
20%, waouh, c'est énorme. C'est
énorme pour le modem.
Non, mais bien sûr, mais tu comprends qu'on vise un peu plus haut que ça quand même.
Et voici les oreilles.
Ah non, ça se suffit, les blagues sur les oreilles. C'est
les oreilles de porc et leur julienne de légumes, monsieur Bayrou, c'est le plat principal.
Pardon.
Ah, l'Europe en ce moment c'est tout un pataquès.
Je te le fais pas dire, ouais.
Les Italiens prennent la pâte.
Les Allemands pédalent dans la choucroute.
Les Anglais boivent la tasse.
Et c'est bientôt fini les calembours ou comment ça se passe là ? On se croirait à 17h sur France Inter là.
J'avoue, moi aussi je préférais avant quand c'était Colin et Mauduit.
Et tout de suite, le dessert c'est de la pêche.
Ah, de la super pêche.
Pardon, Emmanuel, il y a un truc, je comprends pas.
Pourquoi tu prends un conseil auprès de nous ?
Ben pour votre expertise, bien sûr.
Notre expertise ?
Ben oui, comme on va prendre une branlée, ben je voulais les meilleurs.
Et on est arrivé au bout, hein. Oui. Technique, tout ça.
Magnifique.
Merci. Merci, Philippe Collin.
Merci pour votre accueil. Je suis très, très heureux d'avoir participé à cette émission.
Oh bah écoutez, nous aussi, vraiment. Merci beaucoup à Sébastien Goutal, dessinateur de cette magnifique bande dessinée, Le Voyage de Marcel Grob, paru chez Futuropolis. Et en plus, c'est une coédition France Inter. On vous la recommande vraiment chaleureusement. Dans l'œil du tigre, dimanche à 18h sur France Inter, on va parler de quoi ?
On est en direct du Salon du Livre de Radio France. Et nous serons avec Alain Mabankou et Eric Fotorino, deux grands amoureux du sport. Voilà.
Waouh, cool, très chouette. Et figurez-vous que nous, si vous êtes à Paris, Paris 5e arrondissement, en bas de la rue Mouffetard, librairie Les Traversées, il y aura Clara Dupont-Monod, Guillaume Meurice, Juliette Arnault,
Isabelle
Sorrente, Djoubaka pour sa revue Hey. Bien sûr, n'hésitez pas à venir.
Et Charline Vanhoenacker.
Merci, oui, les amis, je vais venir.